France Culture. La science CQFD, Natacha Triou.
Depuis lundi, pour la semaine du cerveau, on vous parle de cet organe sous toutes ses formes. Mais on ne vous en parle que sous l'angle individuel. Que sont les neurosciences collectives, ce domaine en plein essor? Actuellement, les neuroscientifiques étudient un seul cerveau à la fois. Mais ces 20 dernières années, on découvre que les ondes cérébrales de deux personnes sont capables de se synchroniser. Plus on passe de temps avec quelqu'un, plus on va avoir des expériences communes et plus nos activités cérébrales vont se ressembler. Et le degré d'intimité va moduler cette synchronie. Lorsque vous vous sentez sur la même longueur d'onde avec un ami, vous ne croyez pas si bien dire. C'est cette synchronisation intercérébrale encore mystérieuse qui est étudiée par la science multicerveau. Synchronisation des cerveaux branchés sur la même fréquence. Xavier Alario, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche CNRS au Centre de recherche en psychologie et neurosciences à Aix-Marseille Université. Vos travaux portent sur la cognition et la neurophysiologie du langage et vous avez publié « L'esprit des mots » en 2024 chez Odile Jacob. Nous sommes en ligne également avec Guillaume Dumas, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de psychiatrie computationnelle à l'Université de Montréal, directeur du laboratoire de psychiatrie de précision et physiologie sociale au centre de recherche du CHU Sainte-Justine, membre académique du MILA, l'Institut québécois d'intelligence artificielle. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation en direct ici dans nos studios à France Culture. Et merci à vous qui nous écoutez à toute heure en podcast. N'hésitez pas à vous abonner à notre fil podcast sur l'appli Radio France. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur Blue Sky. Pour vous, nous postons toutes nos ressources et sur notre fil at Science CQFD. Alors qu'observe-t-on lorsqu'on regarde les activités de cerveau d'individus en pleine interaction? Comment faire ces analyses et comment l'étude de la synchronisation intercérébrale renouvelle-t-elle le regard sur nos cerveaux? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. Mais on commence avec notre archive du jour et les prémices des neurosciences. Nous sommes en 1946.
On pourrait croire, a priori, que le cerveau, avec le nombre énorme de cellules nerveuses et de fibres d'association que le composent, ne reviendrait à rien d'ordonné, d'orienté, dans un sens quelconque, dans ses variations électriques d'ensemble. On ne s'attend pas à des variations localisées de pression sur la paroi d'une enceinte contenant un gaz, parce que nous savons que cette pression est la résultante du choc des molécules et que c'est le nombre de ces chocs qui donne à la pression son caractère d'uniformité et d'homogénéité. Il faut descendre aux dimensions microscopiques pour avoir des inégalités de pression, comme il arrive dans le cas des mouvements browniens. Pour le système nerveux, les premières recherches sur les variations électriques du cerveau furent reçues avec beaucoup de scepticisme. Et cependant, depuis une vingtaine d'années, elles sont partout confirmées. On décrit le rythme de repos, les modifications de ce rythme produites par des excitations sensorielles, lumineuses, auditives, tactiles, le rythme de sommeil et même les rythmes particuliers de certains états pathologiques. On arrive même à déceler des différences topographiques et ce qu'il y a de plus troublant, à constater des influences d'états mentaux, comme par exemple l'attention, le travail de calcul mental, etc. Comment expliquer tous ces phénomènes? On ne le sait pas encore et il sera nécessaire d'accumuler un nombre beaucoup plus considérable de faits bien constatés et bien vérifiés avant de pouvoir présenter des hypothèses ayant quelques probabilités d'être un jour confirmées par l'expérience. On ne peut pour le moment que faire des hypothèses de travail, mais il est clair que l'étude du système nerveux par ces méthodes est pleine de promesses.
Voilà la voix de Miguel Osorio de la Almeida, médecin physiologiste de la faculté de Rio de Janeiro sur la RDF en 1946. Xavier Alario, ces variations électriques du cerveau, à l'époque, on ne les comprend pas du tout. On est au tout début des neurosciences.
Oui, on les comprend mal. Alors, au tout début, c'est un peu exagéré. On avait commencé à mesurer des variations électriques une vingtaine d'années avant, vers 1920. C'est un peu la date qu'on donne d'habitude pour les travaux de Berger sur l'activité électrique du cerveau, et en particulier une onde qui est célèbre, qui est la première et qui du coup s'appelle l'onde alpha, puisque c'est la première qui l'est mesurée. Et il y a une anecdote à propos de Berger il était parti à la guerre avant de faire ses découvertes et sa sœur s'inquiétait pour sa santé et elle a eu un rêve prémonitoire dans lequel il se cassait une jambe et donc en fait elle a voulu le prévenir par lettre. Et à cette époque, les lettres allaient moins vite que de nos jours. Et au moment où il a reçu la lettre, il avait effectivement la jambe cassée. Il s'était cassé la jambe avant de recevoir la lettre. Et donc, il a pensé qu'il y avait peut-être de la télépathie. C'était déjà un scientifique, un médecin. Et une partie de la motivation, et ça nous ramène un peu à notre sujet, mais une partie de sa motivation pour étudier les ondes cérébrales, il n'a pas fait d'hyperscanning, il n'a pas fait de sciences sociales du cerveau, mais c'était de comprendre si par hasard, comme on l'entendait bien dans cette voix ancienne, dans ces choses qu'on comprenait mal, il y aurait des communications à distance. Mais en tout cas, c'est très beau d'entendre l'ignorance avouée et de se dire le chemin qu'on a parcouru depuis.
Par rapport à cette archive, Guillaume Dumas, aujourd'hui nous sommes au début des neurosciences collectives et on se pose quand même à peu près les mêmes questions.
Pour faire écho à l'anecdote avec Berger, depuis qu'on a observé ces synchronisations intercérébrales, malheureusement, ça a souvent été le raccourci qui a été pris par beaucoup de gens, de croire que ça en parlait de télépathie. Et malheureusement, beaucoup de gens en parapsychologie, en fait, avaient essayé de faire ces enregistrements multicerveaux à la base pour prouver la télépathie. Il y a même un article en 1965 dans Science qui avait prétendu avoir démontré la télépathie entre deux jumeaux. Alors que justement, on est qu'aux prémices de ces enregistrements du phénomène de synchronisation entre les cerveaux. Et on a encore beaucoup de chemin à parcourir. Mais là, entre ce qui s'est passé depuis 1946 avec cette archive et maintenant, par exemple, les phénomènes de synchronisation à l'intérieur du cerveau, déjà, ont été mis en évidence et ont été démontrés comme étant fondamentales dans l'intégration de l'information entre différentes aires du cerveau. Chose qui, à l'époque, n'était pas encore établie du tout. C'est-à-dire qu'il a fallu attendre plus la fin du XXe siècle pour que les gens commencent à voir le cerveau non pas comme une machine ou un ordinateur, mais plus comme un réseau où plusieurs populations de neurones sont en interaction.
Oui, c'est comme vous dites, 65, cet article dans Science, c'est deux chercheurs de l'université Thomas Jefferson à Philadelphie qui s'intéressent en effet à la télépathie chez des jumeaux. Il y a des signaux enregistrés d'activité cérébrale synchrone, mais Guillaume Dumas, il a fallu quand même attendre plus de 40 ans pour que la recherche sur la synchronisation cérébrale retrouve une assise scientifique reconnue. Vous, quand vous avez commencé au départ, on vous prenait un peu pour un fou, non ?
Ah ben, en master à l'ENS, il y avait quelqu'un dans le jury qui croyait que ce que je faisais, c'était de la parapsychologie. Donc, c'est pour montrer, hein, c'était à l'école normale. Je citerai pas qui, mais ça me rappelle des bons souvenirs. Et depuis, j'ai beaucoup de problèmes à communiquer sur ça, parce que la plupart des gens vont prendre le raccourci par rapport à cette interprétation-là. Alors que, en fait, c'est un phénomène assez complexe de manière assez ironique, a été au départ dit comme étant impossible, puis après comme étant trivial du fait que si deux personnes sont exposées aux mêmes stimulations ou font la même tâche, forcément leurs cerveaux vont être synchronisés. Alors il y a effectivement cette composante de faire la même chose ou de voir la même chose qui va synchroniser le cerveau, mais notre recherche depuis même la première étude en 2010 a montré qu'il y a des synchronisations qui ne sont pas explicables juste par le partage de la même stimulation ou le partage de la même tâche. Mais il y a une question d'anticipation de ce que l'autre va dire ou de ce que l'autre va faire. Il y a des phénomènes de résonance entre les deux personnes qui anticipent et prédisent ce que l'autre va faire et donc, du coup, vont se mettre, comme on dit métaphoriquement, sur la même longueur d'onde. Et depuis 2010, on n'a pas arrêté de documenter en fait, les différents facteurs qui modulent ces phénomènes-là et les potentiels mécanismes aussi sous-jacent.
En effet, on a un grand nombre de mises en évidence de synchronisation intercérébrale, des phénomènes de résonance. On peut en citer ensemble quelques-uns, Xavier Alario.
Oui, donc on peut avoir des personnes qui font des mouvements en commun, des personnes qui coopèrent dans une tâche, qui essayent de résoudre un problème ensemble. C'est souvent des problèmes un peu simplifiés qui se prêtent à des expériences de psychologie ou qui, au contraire, au lieu de coopérer, vont essayer d'être en concurrence. Et on peut imaginer qu'il se passe des choses différentes. Et peut-être la tâche partagée la plus fréquente, c'est celle du dialogue. Le fait que ce que nous faisons en ce moment, nous allons construire ensemble un parcours, nous allons construire ensemble un échange et, je pense, nous allons construire ensemble des connaissances communes. Donc ça, c'est aussi une tâche où nos cerveaux, d'une façon ou d'une autre, vont rentrer en synchronie grâce au langage.
C'est-à-dire qu'en ce moment même, on est en train d'échanger autour de cette table, nos ondes cérébrales sont en train de se synchroniser.
Alors, c'est un peu la question. Déjà entre nous, entre le collègue qui est à distance, et aussi le fait que, oui, bien sûr, je pense que l'activité cérébrale de nos cerveaux va ressembler plus en fin d'émission qu'au début, mais c'est très schématique. Ce qu'il va falloir faire, c'est entrer dans les détails, parce que ça va être aussi le cas pour les personnes qui sont à distance et qui nous écoutent et qui participent pas à la conversation. La radio fait ça. Si l'émission est bien faite et qu'ils sont intéressés, leurs activités cérébrales vont commencer à ressembler plus aux nôtres. Donc ce qu'il faut, c'est décortiquer, comme déjà commencé à l'évoquer à l'instant, quelles sont les causes, par où ça passe et quelles sont les contraintes.
Guillaume Dumas.
Mais si on prend l'exemple justement de l'émission, c'est vrai que c'est un très très bon moyen d'expliquer le phénomène. C'est-à-dire que nous, en échangeant de manière interactive, nos cerveaux vont anticiper par exemple le tour de parole de l'un et de l'autre. On va arriver à une convergence de thématiques ou on va anticiper ce dont on va parler, etc. Et ça va être beaucoup plus synchronisé qu'une personne qui écoute en tant qu'auditeur et qui ne fait pas partie du dialogue. Donc, il n'a pas une part active dans la prédiction collective qui est en train de se passer. Par contre, tous les auditeurs qui vont écouter l'enregistrement, que ce soit en temps réel pendant le live ou avec un podcast, comme ils vont entendre le même stimulus, là, effectivement, leur cerveau va être synchronisé par rapport au stimulus. Mais c'est un autre type de synchronisation. Et c'est là où, justement, c'est important de comprendre qu'il y a plusieurs facteurs. En fait, quand on mesure une synchronisation entre deux systèmes, en fait, il y a plusieurs facteurs qui sont en cause. La similarité des systèmes, le fait d'échanger des informations ou le fait d'être exposé à une information commune. Et c'est ces trois essentiels facteurs qui sont importants à distinguer avec des expériences où on contrôle chacune de ces composantes.
Il y a des expériences avec des résultats aussi assez impressionnants. Je pense à cette étude parue en 2018, parue dans PNAS, sur la douleur. Bon, il est possible de synchroniser sa respiration, son rythme cardiaque, mais aussi ses ondes cérébrales avec un compagnon qui souffre, on lui tient la main. Et cette étude montre que plus on est synchronisé avec les ondes cérébrales de l'autre, plus le degré d'empathie est forte pour l'autre. Et puis ensuite, cette forte synchronisation diminue aussi la douleur. Ça, c'est quelque chose d'assez impressionnant, comme je disais Xavier Alario.
Oui, alors on est à proximité dans cette expérience dont j'ai entendu parler, mais que j'ai pas lu en détail, j'ai pas décortiqué en détail, mais on se touche, on s'entend, donc les synchronisations de ces différentes constantes comme sont la respiration, le pouls, la peut-être même la tension artérielle on peut trouver des explications assez plausibles au fait qu'elles se synchronisent. Il est possible que cette synchronisation ensuite se répercute et soit la cause de la similarité entre les deux les activités cérébrales mesurées dans les deux cerveaux. Et la dernière composante que vous évoquez, qui est la baisse de la douleur, elle est concomitante à cette synchronisation, mais il est plus difficile de démontrer qu'elle est causée par cette synchronisation. Et ça, c'est aussi un thème général qu'on va peut-être pouvoir évoquer au cours de cette conversation. C'est la corrélation, comme il est bien connu, la corrélation n'est pas causalité. Les corrélations peuvent être dues à des causes tierces. Donc, moi, je trouve très remarquable qu'on observe de tels phénomènes, qu'ils soient robustes, qu'on puisse les observer dans un laboratoire et puis un peu plus tard dans un autre. Mais je trouve intéressant aussi d'aller dans le détail des chaînes causales, de pourquoi est-ce que, par quel mécanisme on va pouvoir avoir ces synchronisations.
Alors pourquoi et par quel mécanisme justement? Comment interpréter ces observations et comment les observer? Restez à l'écoute.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
Direct sur France Culture, avec Xavier Alario et Guillaume Dumas, nous parlons de neurosciences collectives ou l'étude de la synchronisation des cerveaux. On vient de voir que les neuroscientifiques cherchent à comprendre les mécanismes et les conséquences que ces synchronisations peuvent avoir sur l'interaction sociale. Guillaume Dumas, pourquoi l'analyse multicerveau est-elle pertinente et importante selon vous?
Pour revenir à, par exemple, l'exemple de cette étude sur la douleur, où justement, avec mon collègue Pavel Goldstein, on avait montré les synchronisations avec le toucher affectif qui diminue la douleur. Il y a un premier niveau d'intérêt qui est l'extraction de marqueurs de nouveaux types. Et là, on parlait de la question de la causalité. C'est indépendamment de la causalité, déjà, avoir des nouveaux marqueurs, ça peut être pertinent pour comprendre des phénomènes. Donc, typiquement, dans le cadre de cette analgésie par le toucher affectif, on a montré que ces synchronisations intercérébrales étaient une signature, en tout cas, robuste de ce phénomène-là. Donc ça peut être utilisé même en médecine. Donc on l'utilise, on peut en discuter dans le cadre de conditions psychiatriques où il y a des altérations de la communication. Et du coup, avoir des mesures entre deux cerveaux sont peut-être plus pertinentes que réduire à ce qui se passe dans un seul cerveau, puisque là, on parle de cognition sociale ou de phénomène interpersonnel. Après, il y a un deuxième niveau qui, lui, justement, ce dont on parlait sur la question de la causalité, c'est une fois qu'on a un phénomène comme ça qui est significativement répliqué à travers plusieurs laboratoires, on peut se poser la question de est-ce que c'est juste un épiphénomène ou un marqueur, ou est-ce que ça peut avoir un rôle causal, une fonction dans la cognition sociale ? Et est-ce qu'il y aurait une efficacité ou une causalité qui va de ces synchronisations intercérébrales vers la cognition individuelle ? Et donc ça, c'est une question qui est beaucoup plus complexe, qu'on n'a encore pas totalement démontré, mais il y a déjà des études qui imposent de manière, avec de la stimulation électrique, la synchronisation, et qui montrent qu'il y a un effet sur le comportement, et donc ça irait vers un sens où ce ne serait pas juste une signature, un épiphénomène, mais il pourrait y avoir un rôle causal de ces synchronisations intercérébrales. Et donc, du coup, il y a vraiment ces deux niveaux en parallèle. Déjà, documenter et utiliser ces marqueurs pour des fins d'application en clinique ou pour, même d'un point de vue expérimental, utiliser ces marqueurs pour, comme mesure pour distinguer deux théories, par exemple. Donc ça, c'est une version, on va dire, plus légère et une version forte qui serait la fonction et la causalité de ces synchronisations intercérébrales.
Je me retourne aussi vers vous, Xavier Alario. Je vous pose à peu près la même question. Hein. Selon vous, la plus-value de mesurer l'activité de plusieurs cerveaux en interaction plutôt que l'activité du cerveau d'un seul individu qu'on aurait mis en situation d'interaction, pour vous, elle est où, cette plus-value-là ?
Alors, il y a une plus-value à étudier les individus en groupe. Alors, parce que beaucoup de nos activités quotidiennes, qui au final sont celles que nous voulons comprendre, sont des activités de groupe. Le dialogue, toutes les activités, c'est très rare que nous fassions des choses seuls ou en ne pensant pas à d'autres personnes. Donc la question de l'aspect social de la cognition et de la neuroscience cognitive est très importante. À mes yeux, la mesure de l'activité cérébrale dans ce contexte, c'est l'un des marqueurs. Je ne pense pas que ce soit ni le premier ni le dernier, c'est l'un des marqueurs qui permet de contribuer, d'amener des informations à des théories de comment s'organise l'interaction sociale. Les coordinations motrices, les coordinations verbales, les échanges qu'on vient de dire à l'instant physiologiques sont tout aussi importants. Moi, je trouve intéressant de travailler à différents niveaux de description, de joindre la psychologie à la neuroscience, c'est-à-dire de marcher sur ces deux morceaux. Donc, je trouve que le fait que depuis une vingtaine d'années, pour donner une date approximative, le cerveau vienne se rajouter à des études antérieures, déjà sur le fait qu'on applaudisse de façon de synchrone, pour prendre un exemple trivial, et d'autres contextes, ça me paraît être une corde de plus à l'arc pour comprendre la façon dont les interactions sociales s'organisent.
Par rapport justement à ces autres exemples de synchronisation, Guillaume Dumas, vous avez mis en évidence des synchronisations intercérébrales 2021 dans l'étude que vous avez publiée dans la revue Neuroimage. Vous montrez que c'est l'interaction sociale qui entraîne la synchronisation.
Alors, même en 2010, en fait, à la Pitié-Salpêtrière, quand j'avais fait ma thèse, on avait commencé à montrer que l'interaction sociale spontanée donner lieu à l'émergence de synchronisation intercérébrale. Et pour faire écho à ce que vient de dire mon collègue, dans l'équipe, une de mes co-directrices de thèse, Jacqueline Nadel, avait étudié chez l'enfant et le bébé l'imitation spontanée entre le bébé et la maman. Il y avait toute une littérature en psychologie du développement sur ces phénomènes de synchronisation et à quel point, justement, il fallait enregistrer les deux personnes en interaction pour pouvoir étudier ces phénomènes-là. En enregistrant uniquement un bébé qui regardait des images fixes ou même une vidéo préenregistrée, on n'arrivait pas à avoir les mêmes phénomènes que ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Et c'est directement inspiré par ces études de la psychologie du développement qu'on a développé ce protocole pour montrer que ces synchronisations interpersonnelles s'accompagnaient de synchronisations entre les cerveaux. Et donc là, encore une fois, je suis entièrement d'accord, il y a énormément de mesures, par exemple cardiaques, au niveau oculométrique, etc., au niveau du mouvement des yeux, qui vont supporter cette idée que quand on est en interaction sociale, il y a des phénomènes qui ne sont pas étudiables en laboratoire avec une seule personne. Donc ça, c'est un message qui est extrêmement important, puisque c'est-à-dire que si on veut comprendre le fonctionnement du cerveau humain, qui est quand même un animal social par essence, ça veut dire qu'il faut amener ces interactions dans le laboratoire. Et la place de l'enregistrement multicerveau là-dedans, c'est un des outils parmi tant d'autres pour comprendre qu'est-ce qui se passe sur le plan neurophysiologique, quand il y a ces synchronisations interpersonnelles et quels sont les potentiels mécanismes qui sous-tendent notre cognition sociale quand on est en contexte interactif.
Mais vous souhaitiez réagir, Xavier Allard.
Oui, je voulais dire que les cerveaux eux-mêmes, si on pense à la masse un peu graisseuse qui est dans nos têtes, les cerveaux, ils n'interagissent pas directement les uns avec les autres. C'est bien à travers nos organes sensoriels et à travers nos muscles, par nos actions et par nos perceptions, que ces organes internes, les cerveaux, peuvent interagir entre eux. Donc il y a le canal d'interaction des cerveaux qui va permettre ces synchronisations, qui va permettre tous ces phénomènes d'intérêt. Il est contraint par le fait que ces cerveaux habitent dans un corps dont la manifestation est motrice et sensorielle. Et dans ces conditions, la combinaison de cette contrainte et l'étude des phénomènes cérébraux va pouvoir nous renseigner sur le genre de processus mental qu'une personne est en train d'engager lorsqu'elle est en train de collaborer ou d'être en concurrence ou de dialoguer avec une autre. Donc, ces mesures cérébrales nous donnent accès à la vie mentale sociale, en quelque sorte. Ce serait pour aller plus loin dans l'importance du cerveau dans cette discussion.
Oui, c'est ça, mais c'est que tous ces signaux de synchronisation non cérébrale, ça laisse à penser qu'il se passe quelque chose au niveau cérébral également, Guillaume Dumas.
C'est une très bonne remarque de ramener le corps, parce que en fait, même l'étude initiale aussi était motivée par les travaux de Francisco Varela, qui est un neurobiologiste chilien qui était à la Pitié Salpêtrière, et qui avait mis en avant tout ce qu'on appelle maintenant le embodied cognition, la cognition incarnée, et le fait de réhabiliter, le fait que pour comprendre le fonctionnement du cerveau, il fallait le placer dans le contexte du corps, et souvent quelque chose qui est oublié, mais dans son approche incarnée, il y avait justement l'environnement social. C'est-à-dire qu'on est des êtres sociaux et ça fait partie des boucles avec lesquelles le système nerveux est en couplage en permanence. Les autres, l'environnement, à travers le corps, par la perception et par l'action. Et donc, du coup, en tant que scientifique, on peut, à tout moment, dans cette boucle entre la perception et l'action et l'environnement, mettre un capteur et enregistrer ce qui se passe comme information. Et je pense que le défi, c'est d'intégrer à travers différentes modalités, donc à travers différents capteurs, pour comprendre le flux de causalité qui se passe. Qu'est-ce qui est du domaine de juste la similarité du fait de faire la même tâche ou d'être dans le même environnement, et qu'est-ce qui est du domaine de plus l'anticipation ou la projection de mentale commune, l'alignement du fonctionnement du cerveau entre différentes personnes lors de l'interaction sociale.
Justement, Guillaume Dumas, ces interactions sociales, ces synchronisations intercérébrales, vous suggérez que ça peut avoir donc un impact. Quelles seraient les fonctions de ces synchronies-là? Les hypothèses qui sont formulées actuellement.
Alors, il y a plusieurs hypothèses. Moi, la première qui a été à explorer, c'était sur le plan de l'intégration entre les informations qui proviennent de soi et les informations qui proviennent de l'autre. On sait que le cerveau doit traiter des informations qui proviennent de notre propre corps et des informations qui proviennent des autres. Typiquement, dans le développement de l'enfant, l'enfant, au départ, touche son corps, touche le corps de ses parents et apprend à distinguer le soi et l'autrui. Et en fait, l'apprentissage au niveau des synapses dans le cerveau se joue dans des constantes de temps de l'ordre de la milliseconde. C'est-à-dire que pour que les neurones créent des nouvelles connexions ou diminuent des connexions, il faut que l'information soit dans cet ordre très fin au niveau temporel. Donc on parle vraiment de millisecondes dans ce cas-là. Et le fait de se synchroniser avec les individus par la perception et l'action dans l'interaction sociale, pour moi, une des premières fonctions, ça serait la formation par plasticité synaptique d'assemblées de neurones qui sont à la fois associées à soi et à autrui.
Ça veut dire. L'autre hypothèse également, c'est l'idée de la gestion de nos interactions sociales qui est en jeu là aussi.
Oui, alors donc là, c'était la première hypothèse, c'était déjà d'un point de vue développemental. Et donc, comme je m'intéresse beaucoup au neurodéveloppement et aux troubles du neurodéveloppement, c'est une des hypothèses sur lesquelles on travaille beaucoup. Mais après, il y a une autre hypothèse qui est plus en lien avec aussi l'étude de la musique ou des rituels où il y a de la rythmicité, qui est le fait que quand on se synchronise, on communique plus facilement. Et donc, il y a un effet facilitateur de la communication quand on est synchronisé. Et là-dessus, c'est justement sur cette deuxième hypothèse que les résultats commencent à apparaître sur le plan causal, où, par exemple, il y a une étude de Northeastern chez la souris, où ils ont imposé artificiellement des synchronisations sur plusieurs souris, et en mettant une autre souris qui n'était pas synchronisée, mais stimulée quand même. Et ils montrent que les souris qui sont synchronisées artificiellement ont tendance à avoir un comportement social plus proche. Donc là, on a une sorte de causalité avérée entre cette synchronisation intercérébrale et le fait d'avoir un comportement d'approche et de socialité accrue, quoi.
Oui, il y aurait donc un lien entre l'attachement, l'affiliation et cette capacité à se synchroniser. Alors, observer les cerveaux de plusieurs personnes en train d'interagir, c'est possible grâce à l'hyperscanning. Le terme est apparu en 2002. Comment ça fonctionne? On vous raconte tout dans quelques instants. Police Synchronicity en direct sur France Culture, car nous parlons de ce phénomène qu'est la synchronisation des cerveaux. On en parle avec nos deux invités du jour, Xavier Alario, directeur de recherche CNRS au Centre de recherche en psychologie et neurosciences à Aix-Marseille Université, Guillaume Dumas, professeur de psychiatrie computationnelle à l'Université de Montréal, directeur du laboratoire PPSP au Centre de recherche du CHU Sainte-Justine, membre académique du MILA, Institut québécois d'intelligence artificielle. On vient de parler de l'émergence des neurosciences dites collectives, c'est un courant important des neurosciences qui s'intéressent aujourd'hui à cette activité collective du cerveau. Abordons ensemble maintenant, Guillaume Dumas, cette technique qui est l'hyperscanning, une technique que vous avez développée, démocratisée. Comment fonctionne-t-elle?
Ben, en pratique, c'est assez simple à expliquer. C'est-à-dire que jusqu'à encore maintenant, en majeure partie en neurosciences, on enregistre un seul cerveau à la fois. Et en 2002, on a Reed Montagu qui a proposé le terme hyperscanning, de dire, ben, si on a suffisamment d'argent pour avoir deux IRM, plutôt que scanner un seul cerveau, on peut scanner deux cerveaux. D'où le terme hyper-scanning, parce que c'était avec des scanners IRM. Et le terme a été conservé pour d'autres manières d'enregistrer l'activité cérébrale, donc par exemple l'électroencéphalographie qui enregistre l'activité électrique du cerveau, ou par exemple aussi le FNIRS, l'imagerie tomographique optique, qui enregistre l'activité de l'oxygénation du cerveau. Mais on parle maintenant d'hyperscanning, peu importe la modalité d'enregistrement.
Le nombre de publications annuelles avec de l'hyperscanning a d'ailleurs fortement augmenté au cours de la décennie, 5 en 2012, 100 environ en 2022. Xavier Alario, lorsque des personnes discutent, partagent une expérience, leurs ondes cérébrales se synchronisent donc, mais alors plus précisément d'un point de vue neuronal, qu'observe-t-on ?
Alors quand on regarde un cerveau, quand on observe un cerveau, quand on mesure l'activité d'un cerveau, on peut mesurer de plusieurs façons. En simplifiant, je peux en donner trois concepts auxquels on peut interroger. On peut pas regarder l'activation du cerveau, on peut regarder la connexion dans le cerveau, ou on peut regarder la représentation dans le cerveau. Alors l'activation, c'est sûrement le plus simple, c'est de dire est-ce que le cerveau s'allume, est-ce qu'il y a plus d'électricité, plus de consommation d'oxygène, est-ce que le cerveau est plus actif ou pas. La connexion, c'est un peu plus compliqué. C'est pas seulement à un endroit, c'est à deux ou plusieurs endroits. C'est est-ce que ces deux ou plusieurs endroits s'activent et est-ce qu'ils s'activent en même temps? Est-ce qu'il y a une dépendance entre ces deux, ce qu'on appelle nous une connectivité, c'est-à-dire une dépendance statistique, une corrélation, des corrélations, on en a plein, mais de mesures. Mais et la troisième, c'est la représentation. C'est est-ce que l'on peut dire le contenu? Est-ce qu'on peut associer un contenu, une représentation, un sens à cette activité cérébrale? Et dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on la découpe en tout petits morceaux. Par exemple, au lieu de regarder une aire cérébrale complète, on la regarde avec plein de voxels différents. Ou alors, au lieu de regarder pendant une minute, on va regarder millisecondes par milliseconde. Et on va essayer de mesurer la ressemblance, la similarité. Alors, il y a un peu des maths, il y a un peu des espaces et des statistiques, mais on va essayer de regarder la similarité entre l'activité cérébrale et des caractéristiques comme un stimulus, comme une pensée, comme un mouvement. Et donc, ça, c'est un enrichissement progressif depuis est-ce que ça s'allume ou pas, est-ce que ça dialogue ou pas, et quel est le contenu de la pensée. Ça, c'est vrai pour les cerveaux unique, et c'est aussi vrai pour les hyperscanners qu'on vient d'évoquer. Et les conclusions qu'on va tirer selon qu'on regarde si l'hyperscanner va regarder est-ce que les cerveaux s'activent en même temps, est-ce qu'ils s'activent de façon statistiquement dépendante ou est-ce qu'ils s'activent avec des représentations similaires, les conclusions vont être différentes.
C'est-à-dire que si on a deux personnes qui discutent ensemble, les neurones situés dans les zones correspondantes de leurs cerveaux respectifs déchargent en même temps, ce qui va créer donc des motifs similaires, comme des danseurs qui se déplacent ensemble, et c'est ça qu'on regarde avec de l'hyperscanning, Guillaume Dumas.
Alors c'est un premier niveau d'analyse de regarder la similarité quand il y a par exemple une tâche qui est symétrique. Maintenant, en fait, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de tâches ou de choses dans la vie de tous les jours où on fait des tâches qui sont complémentaires. Donc là, c'est asymétrique. Donc ce n'est pas nécessairement les mêmes régions du cerveau qui vont être activées dans les deux personnes, mais par contre, elles vont être synchronisées. C'est-à-dire que je vais faire quelque chose qui va être complémentaire de ce que va faire l'autre personne de manière cohérente dans le temps. Donc par exemple, un exemple souvent qui a été utilisé, c'est si on porte une table à deux. La personne qui est devant, elle va tenir la table différemment de la personne qui est derrière, mais on va être quand même à devoir se coordonner dans le temps pour ne pas faire tomber la table. Quand on joue dans un orchestre, chaque instrumentiste fait des gestes différents parce qu'ils ont des instruments différents. Donc ce n'est pas forcément la même manière que leur cerveau est activé. Mais par contre, ils sont dans la même temporalité, il y a la même rythmicité de la musique. Et donc, ils vont être quand même synchronisés. Donc, il y a vraiment la notion de similarité sur le plan faire la même chose, mais il y a aussi la notion de synchronisation quand on ne fait pas la même chose aussi, mais qu'on est quand même coordonné pour faire un but commun.
En tout cas, cette technique d'hyperscanning ouvre la porte à un grand nombre de nouvelles expériences que l'on peut faire pour mieux comprendre la cognition sociale. Dès qu'on a des patients qui ont des difficultés dans des interactions sociales, on peut donc imaginer des protocoles pour mesurer ces synchronies ou ces dyssynchronies cérébrales. Et c'est le sujet de notre reportage du jour avec vous, Loïc Dutoit. Bonjour.
Bonjour, Natacha.
Vous avez rencontré des chercheurs qui testent la synchronie cérébrale entre une mère et son bébé pour mieux comprendre notamment comment la naissance prématurée peut affecter la cognition sociale d'un enfant.
Exactement. Exactement. Et je peux vous dire que la salle dans laquelle je me suis retrouvé pour ce reportage n'est pas banale. Ça ne ressemble pas du tout au laboratoire que j'ai l'habitude de voir. Imaginez une pièce comme une chambre d'hôpital au milieu du CHU de Lille, avec face à face une chaise haute pour bébé et une chaise classique, des casques EEG, électroencéphalographiques, prêts à être disposés sur le crâne des participants. Pour ces casques, il faut imaginer des filets d'électrodes. Et le tout est maintenu par des bras articulés et reliés à des ordinateurs de part et d'autre de la pièce. Deux petites caméras sur des trépieds et orientées vers les chaises viennent compléter le dispositif afin de capter le regard des participants. La première personne avec qui j'ai discuté s'appelle Marine Gauthier-Martins. Elle est doctorante au centre de recherche Lille Neurosciences et Cognition dans l'équipe dirigée par Renaud Jardry.
Donc quand la maman et le bébé arrivent dans la pièce, on les fait s'installer, on a des petits jeux pour les faire patienter et les mettre à l'aise. Et en général, ce qu'on fait, c'est qu'on installe d'abord la maman, puisqu'elle va supporter plus facilement la pose du casque EEG et plus longtemps que le bébé. Donc on l'installe dans sa chaise, on lui pose le casque EEG qui a été préparé au préalable. Donc on le fait tremper dans une solution saline, on l'essuie et ensuite on l'installe sur la maman. Et le bébé qui est en face sur la chaise haute, on va ensuite procéder à la même chose, donc installer le casque EEG. Ensuite, on branche les caméras donc pour avoir le regard mutuel. Et ce qu'on va faire, on va avoir plusieurs conditions. Donc, on va leur demander dans un premier temps, en fait, de jouer, enfin surtout à la maman, de jouer avec son enfant en essayant de capter au maximum son regard pendant 3-4 minutes. Et ensuite, on va lui demander de jouer avec son bébé sans forcément capter son regard pour qu'on ait une période de comparaison entre le regard mutuel et l'interaction libre sans forcément de regard mutuel.
Est-ce qu'on cherche à voir à ce moment-là, lors des interactions où il y a un regard mutuel entre le bébé et sa mère, c'est de définir s'il y a une synchronicité cérébrale dans ces moments-là?
Oui, c'est ça. Et parce qu'aussi, le regard mutuel, donc c'est une capacité acquise à 9 mois. Et on veut voir si cette synchronie se passe mieux, entre guillemets, entre la maman et le bébé qui n'est pas prématuré versus les enfants prématurés.
Si les chercheurs font cette hypothèse, s'ils pensent que la synchronisation de l'activité cérébrale entre la mère et son bébé fonctionne moins bien lorsque l'enfant est prématuré, c'est à cause de la mini-puberté. C'est un phénomène qui survient juste après la naissance et qui joue un rôle dans la maturation du cerveau. Chez les prématurés, cette mini-puberté est amplifiée et on pense que cela nuit au développement de la cognition sociale. Renaud Jardry est professeur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à la faculté de médecine de l'université de Lille et directeur d'équipe INSERM au centre Lille Neurosciences et Cognition.
Alors, la mini-puberté, c'est un phénomène qui survient de manière physiologique, mais qui peut être exacerbé en cas de prématurité. Et donc, il y a une cascade hormonale qui se met en place chez le bébé prématuré et qui peut avoir des conséquences à long terme si elle n'est pas corrigée. Et parmi ces conséquences, il peut y avoir un impact cognitif. Donc nous, ce qu'on souhaite faire dans ce projet, c'est aller regarder chez des enfants donc nés avant 36 semaines d'aménorrhée, donc des bébés prématurés, qui présentent ou pas une mini-puberté, qui présentent une mini-puberté corrigée ou non en phase précoce de développement, aller regarder dans toutes ces populations quel est l'impact sur la mise en place de la cognition sociale dans des périodes clés du développement.
Je sais que c'est un projet qui est encore neuf et donc il n'y a pas de résultats en tant que tels qui ont été publiés. Mais est-ce que vous avez peut-être déjà des premières ébauches de résultats qu'on pourrait regarder ensemble?
Alors, on a sous les yeux des graphes de mesures de synchronie entre maman et enfant. Donc on a les trois conditions, donc regard mutuel, interaction libre et sans aucune interaction. Et ce qu'on voit, donc, c'est les deux casques EEG face à face avec des lignes qui les relient, qui décrivent en fait la synchronie qu'on a entre les différentes zones du cerveau, la force de la synchronie et le sens de la synchronie, donc s'il y a une synchronie ou s'il n'y en a pas.
Et donc là, les couleurs, est-ce que vous pourriez nous dire à quoi correspondent chacune de ces couleurs? Justement, j'imagine que plus c'est rouge, plus c'est intense, mais peut-être que c'est pas le cas.
Oui, c'est ça. Alors du coup, en rouge, on a une synchronie positive et en bleu, on a une synchronie négative. Et plus la synchronie est forte, plus le tracé est épais entre les deux cerveaux.
Moi, de ce que je vois, j'ai l'impression qu'il y a plus de synchronie globalement, quand il y a un regard mutuel et quand il y a étonnamment aussi une absence d'interaction, plutôt que quand il y a une interaction libre.
Alors là, c'est ce qui en ressort à peu près. Il faut savoir que c'est fait que sur une dyade, donc c'est absolument pas concluant et significatif, et sur une seule bande de fréquence. Mais les hypothèses qu'on a, effectivement, c'est que la synchronie sera plus grande en temps de regard mutuel qu'en interaction libre, et encore moins qu'en absence d'interaction.
Une dyade, c'est un duo
mère-enfant. Oui, c'est un duo mère-enfant, oui.
Renaud Jardry.
Donc ça, ce sont des résultats très préliminaires. Ce qui est intéressant tout de même, c'est que ces analyses vont continuer à être optimisées, notamment par l'utilisation des flux caméras. Là, actuellement, on a utilisé les conditions complètes, donc l'ensemble des périodes pendant lesquelles la maman et le bébé sont censés se regarder, mais on sait que le bébé ne va pas toujours regarder sa maman dans les yeux dans ces blocs expérimentaux. Et donc, on va aller redécouper ces blocs expérimentaux en utilisant des outils d'apprentissage statistique qui utilisent nos films. Ce qui fait que les conditions vont véritablement comprendre uniquement des périodes où la maman et le bébé se regardent dans les yeux.
Entre un enfant qui est prématuré et un enfant qui est né à terme, les différences possibles de synchronicité avec la mère qu'on peut noter, si elles s'avèrent effectives dans les expériences futures que vous allez mener, est-ce que c'est quelque chose qu'on pourra relier à coup sûr avec des difficultés d'interagir socialement de manière vraiment globale et pas seulement avec la mère ?
Nous, on aborde ça de manière très fonctionnelle. Donc, on cherche aussi à détecter précocement des choses qui pourraient être corrigées. Faire en sorte qu'un enfant qui présente des difficultés de synchronie puisse, par une intervention ensuite adaptée, rejoindre sa trajectoire développementale attendue. Par exemple, si on met en évidence des anomalies de synchronie entre maman et bébé, une des questions à laquelle on pourra répondre avec le protocole, c'est de voir si ces anomalies de synchronie s'observent uniquement en situation de regard mutuel ou sont présentes dans les différentes conditions expérimentales. On peut, à ce moment-là, adapter notre stratégie thérapeutique en fonction de ce qu'on observe. Donc, en fait, on attend de ces résultats à la fois des données qui nous permettront de mieux comprendre la capacité de l'enfant et de la maman à interagir, mais aussi qui vont nous offrir des pistes potentielles d'intervention pour la suite.
Merci Loïc Dutoit. Notre nouvelle collection de podcasts La Science au Labo est disponible en podcast. Tous nos reportages en immersion sont à retrouver sur l'appli Radio France ou sur franceculture.fr. Xavier Alario, une réaction à ce qu'on vient d'écouter ?
Oui, c'est très impressionnant comme projet. J'ai deux réactions, en fait, si vous me permettez. La première, c'est que les enfants prématurés ne sont pas proprement malades, mais on est presque dans une recherche clinique. Et il ne faudrait pas croire qu'on fait de la recherche clinique parce qu'on a parfaitement compris le sujet sain ou le sujet tout venant, en fait. Ce n'est pas le cas. La connectivité intercérébrale, elle est étudiée depuis trop peu longtemps pour qu'on l'ait vraiment comprise, mais ça n'empêche pas d'essayer de à la fois utiliser ce que on commence à comprendre et pour alimenter une recherche par des médecins et réciproquement que ce que vont trouver ces personnes, ces collègues, va pouvoir alimenter la connaissance dans le sujet tout venant, le sujet sain. Donc ça c'est une première chose, une démarche générale qui me paraît tout à fait appropriée et qui n'indique pas qu'on aurait en quelque sorte compris le problème et qu'on va pouvoir, puisqu'on a compris le problème, commencer à fabriquer des remèdes. La deuxième remarque, c'est que y a le signal cérébral qu'on mesure notamment avec l'EEG, comme dans cet exemple, il est léger, il est discret. Un électrocardiogramme, c'est pas discret. En un battement de cœur, vous pouvez presque commencer à voir s'il y a un problème dans ce cœur ou pas. Au contraire, le signal cérébral en EEG, il a un signal à bruit très faible. Et donc, avec des personnes adultes, consentantes et volontaires, il faut déjà faire un petit peu attention à comment on le mesure. Avec des enfants, c'est difficile, mais alors avec des prématurés, j'ose pas imaginer toutes les choses qui peuvent se passer mal dans une telle expérience. Donc, je souhaite que ça marche, bien sûr. Je souhaite que ça fonctionne, mais je peux imaginer la complexité dans le recueil de la donnée et ensuite dans son analyse ou dans son débruitage ou dans son. Donc, je pense qu'il y a là des défis considérables.
Guillaume Dumas, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, puis vous aussi, hein, vous supervisez la thèse de Marine Gauthier-Martin.
Oui.
Une réaction à tout ça ?
Oui, ben justement, en fait, ironiquement, je pense que le défi est plutôt du côté de la maman que du bébé au niveau traitement du signal à l'heure actuelle. Marine est venue en visite à mon labo, on a beaucoup travaillé sur les aspects de traitement du signal, etc. Et l'avantage des prématurés et du bébé en général, c'est qu'ils n'ont pas encore trop la volonté d'arracher le casque, ce qui n'est pas le cas, par exemple, pour les 2 ans, 3 ans. Donc souvent, en fait, en EEG, la pire période pour enregistrer l'activité cérébrale, c'est 2-3 ans où l'enfant commence à avoir plus d'agilité pour toucher le casque et essayer de l'enlever. Mais chez le bébé, finalement, les bébés sont assez dociles et le signal est assez bon. En fait, ils n'ont pas trop de cheveux, les impédances, la connexion avec les électrodes se fait bien. Et en plus, ironiquement, comme ils sont sur une chaise haute aussi, ils sont assez isolés du sol et du reste de l'environnement. Donc, d'un point de vue électromagnétique, les données ne sont pas trop mal, finalement. Après, c'est sûr que, comme toute imagerie cérébrale, il y a des défis de traitement du signal. Et notamment, quand on fait de l'hyperscanning, bah, y a tout un travail de retirer les potentielles sources communes de bruit dans les deux enregistrements, parce que sinon, ça serait une source de synchronisation qui serait totalement artefactuelle. Et c'est en ça qu'il faut faire un design expérimental propre, où on fait des contrastes, on compare des conditions, où le niveau de bruit, où le niveau de similarité de l'environnement est le même, mais ce qui change, c'est l'engagement social. Et donc, c'est exactement ce qu'on essaye de faire dans ce projet avec l'équipe de Renaud Jardry, c'est de avoir le design expérimental qui permet de bien mesurer ce qui est associé à la condition sociale et d'éliminer tous les potentiels bruits ou facteurs confondants qui peuvent être liés à du bruit ambiant ou à des mauvais enregistrements.
Pour poursuivre par rapport aux applications médicales potentielles, ce nouveau champ d'études pourrait être utile pour les pathologies où les interactions sociales sont perturbées. On peut penser aux dépressions, burn-out, schizophrénie. Guillaume Dumas, vous portez le projet SCALE. L'activité cérébrale et en particulier la synchronie est exacerbée en cas d'interaction sociale. Vous êtes donc demandé ce qui se passe lorsque les interactions sociales sont perturbées. Et c'est ce que vous portez à bout de bras avec le projet SCALE.
Oui, ben en fait, SCALE, donc du coup, c'est un projet récent de l'Institut de recherche en santé du Canada. C'est un gros projet pour lequel mon laboratoire a été financé, mais qui trouve sa source déjà en 2012, quand j'ai travaillé avec Jacqueline Nadel, qui est une spécialiste de l'autisme aussi. Donc, on voit que la recherche, ça prend du temps. Mais là, on est en train justement de valider que dans le cas de DIAD, où une des deux personnes a une condition du trouble du spectre de l'autisme, ces synchronisations sont différentes. Mais la posture qu'on adopte avec SCALE et de manière générale dans le laboratoire, c'est de questionner la pathologisation d'un seul individu en se disant que une interaction, ça se constitue à deux personnes. Et donc, comment expliquer l'altération de la synchronisation et de l'interaction sociale sans remettre tout sur le modèle classique du déficit du côté de la personne autiste, mais plus voir la diversité, on parle de neurodiversité du côté de la personne diagnostiquée avec autisme, et comment cette diversité finalement éloigne la personne de la norme, du neurotypique. Et en quoi ça crée cette altération de la cognition sociale. Ce qui est un phénomène qui est assez surprenant, ce qu'on appelle le phénomène de double empathie problème, le problème de la double empathie, c'est que les neurotypiques, les contrôles normaux, entre guillemets, ont tout autant de mal à deviner les émotions que vivent une personne autiste que les personnes autistes ont du mal à deviner les émotions d'un neurotypique. Donc c'est bidirectionnel, finalement, ce problème. On a des personnes qui sont différentes dans leur structure biologique et dans leur développement. Et finalement, au lieu de pathologiser cette différence, on pourrait essayer de comprendre comment cette différence interfère avec la capacité à interagir socialement avec des gens qui ne sont pas de la même nature sur le plan biologique.
C'est quelque chose de co-construit. Xavier Alario, votre regard également sur ce type d'études, comme si elles peuvent amener à une amélioration de la prise en charge pour ces patients-là.
Alors, je pense que le choix de l'autisme est bien vu, parce que c'est effectivement parmi les, dans le spectre autistique qui est assez large, mais la notion de social est très centrale. Donc on peut s'attendre à des phénomènes manifestes, à des phénomènes grands, mesurables, plus facilement mesurables. Donc je pense que ça, c'est très, très intéressant. Je voudrais reprendre le mot qui a été utilisé dans le reportage, qui est le mot de dyade. Si on réfléchit à ces cerveaux qui sont en connexion et qu'on ne veut pas attribuer à l'un des deux seulement la charge de la différence, en quelque sorte, qui était un peu ce que j'ai entendu dans l'explication, le raisonnement général pour ces enfants, pour ces personnes autistes, troubles spectre autistique ou pour même des personnes tout venant, c'est de s'intéresser à un système qui comporte deux parties, mais dont la somme, selon l'adage, est plus grande que, dont l'ensemble est plus grand que la somme des deux parties. Et donc d'essayer de comprendre en quoi cette dyade diffère d'une dyade dans laquelle il y aurait deux personnes souffrant d'un trouble autistique ou deux personnes neurotypiques. Donc je pense qu'on peut essayer de réfléchir au système intégré des personnes qui sont en train d'interagir. Évidemment, il y a le problème de la... C'est compliqué de comprendre un cerveau unique et il y a l'exponentielle, la multiplication des problèmes lorsqu'on en met deux côte à côte. Mais je pense que appréhender les deux ensemble, ça paraît être la bonne façon de faire.
Pour conclure, on arrive à la fin de cette émission, mais je voudrais qu'on évoque également ensemble rapidement, Guillaume Dumas, un autre aspect de vos travaux, notamment sur les écrans, avec cette étude parue dans Neuroimage en 2022, où vous analysez les communications entre deux individus à distance et les communications de ceux qui se parlent en présentiel, et vous observez que ces synchronisations sont fortement altérées pendant un échange en visioconférence. En quelques mots, la technologie semble nuire à la communication.
Alors, particulièrement la vidéoconférence, parce que il y a des temps incompressibles de traitement de l'information vidéo, etc. Ça passe par Internet, etc. Et du coup, ça crée des délais. On s'en rend compte de temps en temps quand notre connexion réseau est de mauvaise qualité, ou ça devient même gênant pour pouvoir communiquer avec l'autre personne, ça lag. Donc quand c'est explicite comme ça, on comprend que ça peut interférer avec l'interaction sociale. Mais nos travaux montrent que même quand c'est pas conscient, il y a toujours ces petits délais qui sont présents et ils se situent dans la fenêtre d'intégration du cerveau, où le cerveau traite l'information entre soi et autrui. Et du coup, ça interfère avec ce phénomène de synchronisation. Et donc, on a montré que justement, via la vidéoconférence, notre capacité à synchroniser, à s'aligner dans un dialogue est atténuée. Et on a mis deux choses sur la table par rapport à ça. Un, potentiellement, même si ce n'est pas conscient, c'est ça qui fait que pendant la pandémie, on l'a tous connu, cette fatigue de Zoom dont parlaient les gens. C'est-à-dire que notre cerveau doit compenser en permanence ce délai qui lui est imposé, qui n'existe pas en interaction face à face. Et donc ça c'est un coût cognitif qui peut avoir cette causalité avec la fatigue que les personnes ont connue pendant la pandémie et encore un peu maintenant. Et deuxièmement, vu qu'il y a un délai et que ça interfère avec cette intégration entre soi et autrui, moi j'ai participé à des discussions avec l'UNESCO sur le fait d'avoir un principe de précaution sur l'usage de ces technologies en bas âge, et donc faciliter plus le face-à-face et essayer d'éviter au maximum ces vidéoconférences en bas âge quand le cerveau est encore en train de s'entraîner à former son cerveau social.
Et en effet, vous préconisez dans ce groupe de travail à l'UNESCO de ne pas utiliser ces outils dans l'éducation en dessous de 5 ans. On est arrivé au bout de cette discussion. Merci à vous deux de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure. Là, tout de suite, on change de sujet, on s'envole pour la stratosphère et on scrute la couche d'ozone. C'est la chronique avec science.
Comment se porte le trou dans la couche d'ozone? Et oui, vous savez, ce fameux trou dont on entendait tout le temps parler il y a quelques dizaines d'années est enfin en train de se refermer. C'est ce qu'affirment les chercheurs du Massachusetts Institute of Technology, le MIT, dans une nouvelle étude parue dans Nature. Petit rappel de chimie. L'ozone, c'est un gaz composé de 3 atomes d'oxygène qui existe en 2 très faibles quantités, principalement concentrées dans la stratosphère. C'est la région de l'atmosphère située à peu près au-dessus de 10 km. Sans cette fameuse couche d'ozone, prochaine, la vie sur les continents terrestres serait impossible puisque cette couche de gaz nous protège des rayons ultraviolets du Soleil qui sont nocifs pour les organismes vivants. Au début des années 1980, des scientifiques ont remarqué une diminution de la quantité d'ozone au-dessus de l'Antarctique au mois d'octobre et après avoir vérifié que leurs instruments fonctionnaient correctement, eh bien ils ont dû se rendre à l'évidence, le phénomène était bien réel et dû à des gaz émis par l'industrie chimique répondant au doux nom de chlorofluorocarbures, les CFC. Ce sont des gaz très utilisés dans les années 60-70 pour la climatisation ou la réfrigération notamment, et le problème c'est que lorsqu'ils atteignent la stratosphère, ils sont décomposés par le soleil en d'autres gaz qui dégradent l'ozone. C'est un phénomène particulièrement prégnant au-dessus de l'Antarctique à cause de phénomènes météo spécifiques de la région. C'est là où se forme le fameux trou. Sophie Godin-Beckmann est directrice de recherche CNRS et spécialiste de la stratosphère, en particulier de la couche d'ozone.
La réaction à la fois de la communauté scientifique est très rapide pour pouvoir montrer la preuve que c'était les composés chlorés qui étaient responsables, mais aussi les États ont réagi très vite. Et donc toute cette activité diplomatique a permis finalement d'aboutir à la signature du protocole de Montréal en 1987, donc très très rapidement après l'apparition de l'article initial montrant qu'il y avait une destruction de l'ozone en Antarctique en 1985, parce que les industries chimiques, et notamment les industries américaines, a trouvé des substituts qui avaient déjà été étudiés, et donc finalement on était un peu dans un cas où les planètes étaient alignées puisqu'il y avait déjà eu une alerte, l'industrie chimique avait déjà commencé à chercher des substituts, elle était concentrée sur un petit nombre de pays, en particulier les États-Unis qui pouvaient finalement prendre des décisions. Il y avait aussi une inquiétude très forte des populations sur ce sujet, et donc finalement, la signature du protocole de Montréal a pu être réalisée en 1987.
Et dès 2016, les études montraient un début d'accroissement de l'ozone. On manquait néanmoins d'éléments robustes pour prouver que cette amélioration était bel et bien due à l'action humaine et qu'elle sortait des fluctuations naturelles de l'atmosphère. C'est d'ailleurs l'originalité de cette publication, hein, qui est parvenue à montrer à partir de quand la tendance de l'ozone au printemps austral sort de cette variabilité naturelle. Alors, comment prouver qu'une amélioration de la couche d'ozone est bien d'origine humaine? C'est tout l'enjeu, bien sûr, et pour ça, les scientifiques ont produit des modèles informatique qui mime les dynamiques atmosphériques dans différentes conditions. En gros, ils ont fait des simulations de l'atmosphère considérant des niveaux de CFC proches de ceux des années 60 et d'autres simulations en prenant en compte l'évolution de ces substances depuis les années 60. Les chercheurs peuvent ensuite comparer ces différentes simulations aux observations réelles et voir quel modèle correspond le mieux. Ils en déduisent ainsi les raisons de l'amélioration de l'ozone.
C'est d'autant plus facile de détecter ces signaux quand les signaux sont forts, parce que la variabilité du climat, elle est importante. Donc si on est dans une région où il y a une faible variabilité climatique et un signal relativement faible, eh bien on va le détecter assez rapidement en fait, parce que finalement au bout d'un moment, on va pouvoir voir sortir le signal du bruit. C'est ce qu'on dit, le signal sort du bruit, quoi. Et quand la variabilité est très forte là, eh bien il faut vraiment beaucoup plus d'années pour que le signal soit visible en fait et qu'on puisse le détecter et qu'on considère qu'il sort de la variabilité. Et donc l'étude montre que c'est à partir de 2018 à peu près que on peut commencer à vraiment voir ce signal d'augmentation de l'ozone en lien avec la diminution des composés chlorés dans la stratosphère en réaction au protocole de Montréal.
Bon, alors le problème de la couche d'ozone n'est pas encore résolu pour autant. Ces composés subsistent longtemps dans l'atmosphère et il faudra attendre des dizaines d'années pour les voir disparaître. Néanmoins, cette étude est une formidable pièce à conviction en faveur des actions pour le climat. Elle prouve l'efficacité des mesures du protocole de Montréal qui ont été parfois coûteuses et contraignantes. En fait, elle nous permet d'affirmer qu'on n'a pas fait ça pour rien. Et moi, ça me donne de l'espoir.
Merci Alexandre pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Et merci à toute l'équipe de la science CQFD. Ève Etienne, Céline Lozen, Lou Anger, Antoine Beauchamp, Loïc Dutoit. À la réalisation Olivier Bétard, à la technique aujourd'hui Marie-Claire Oumabadi. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.